J, sel, milly, 2 grains de grenade, compte du Maghreb. Troisième cassette, deuxième face, page 129, fin de l'histoire, l'aveugle et la mandoline. L'aveugle, n'entendant plus rien, constata qu'il restait seul et, sans plus se soucier, se drapa dans son burnous, son manteau, mit sa mandoline par terre, posa sa tête dessus et s'endormit. Or voici qu'à l'heure fatale de minuit, une bande de 7 femmes en grand voile blanc pénétra dans la salle où dormait l'aveugle. Elles le réveillèrent. « Tu es musicien, » dirent les 7 sœurs. « Continue à jouer car nous aimerions danser. » L'aveugle sentit le parfum qui se dégageait d'elle. Il se mit à attaquer sa mandoline. Et il entendait le bruit cadencé que faisaient les bracelets qu'elle portait aux pieds, d'accord avec les temps de sa musique. « Puisque tu sais si bien jouer, » dirent-elles, « Neshkuhalik, N-E-C-H, trait d'union K-O-U, apostrophe A-L-I-K. C'est la coutume de mettre des pièces d'or au milieu du front des musiciens ou des danseurs pour les récompenser. » L'aveugle se sentait touché au front et entendait tomber dans son plateau ce que les danseuses y jetaient. Il continuait donc à jouer de son instrument avec ardeur. À l'aurore, les 7 sœurs lui dirent « Reste dans le bien. Tu nous as fait bien danser. » Et l'une après l'autre, elles se retirèrent. L'aveugle palpa alors le contenu de son plateau. C'était des épluchures d'orange. Il sourit avec indulgence et se remit à dormir. Mais au matin, lorsqu'il voulut prendre son plateau sous son bras pour s'en retourner, il était très lourd car les peaux d'orange s'étaient transformées en pièces d'or. Il en fit un solide paquet et repartit avec son bâton à tâtons jusque chez lui. Les jeunes garnements curieux arrivèrent. « Yababa, comment as-tu passé la nuit ?»«
Je n'ai jamais eu une nuit pareille. De belles femmes chargées de bijoux m'ont rendu visite. Elles ont dansé au son de ma mandoline toute la nuit. Et maintenant, ma fortune est faite. Je n'ai plus besoin de vous. »
L'histoire suivante, intitulée « Deux grains de grenade », est celle qui a donné son nom à tout le livre. Une grenade, c'est un fruit qui est constitué d'un tas de petits globules, de petits grains. Il était une fois un musulman pieux qui était chaque jour ponctuel dans ses 5 prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, de la fin de la journée et du début de la nuit. Il était aussi très rigoureux dans la préparation morale et rituelle de ses prières. C'est ainsi qu'il avait coutume d'aller faire ses ablutions prescrites par le Coran dans un oued, O-U-E-D, un fleuve, situé non loin de sa maison. Là, il abandonnait ses babouches près de la berge et s'avançait pieds nus sur les lits de galets entre les touffes de laurier rose jusqu'à l'onde claire dont le clapotis cristallin le mettait déjà en harmonie avec le Créateur. Un jour où il se préparait ainsi par la purification à la prière de midi, il vit dans l'eau, étincelante sous le soleil, portée par le remous des lames d'une pierre à l'autre, une belle grenade, sans doute tombée de quelque arbre ou abandonnée par un voyageur. Il prit une badine de laurier, puis, au milieu des gerbes de lumière des gouttes d'eau qui éclaboussaient de partout, il orienta le fruit vers lui et s'en saisit. La chaleur était torride, mais la grenade, au sortir de l'onde, était glacée. D'une main avide, il fit éclater sa couronne et l'ouvrit. Les pulpes gonflées et rutilantes se pressaient comme un flot de rubis dans une cassette d'or. Il égrena toute une poignée de ces grains écarlates, en savoura les deux premiers, puis s'arrêta net en pensant que cette grenade ne lui était pas destinée. Seul le hasard du courant l'avait mise sur son chemin. Il avait commis là, avec sa baguette, un détournement, un vol. Il remit alors les pulpes déjà arrachées à l'intérieur du fruit, referma soigneusement le tout dans l'enveloppe formée par la peau et se mit à remonter tout le long de la rive pour essayer de découvrir quel arbre penché sur le ruisseau avait pu laisser tomber ce fruit et quel propriétaire avait cet arbre dans son champ. Notre homme marcha longtemps, poussé par son repentir, pendant des jours et des jours, questionnant chaque arbre, chaque grenade, essayant de découvrir sur chaque rameau la trace de la blessure faite par l'arrachage de la grenade perdue. Son cœur portait en lui avec angoisse le poids intolérable de ces deux grains que par avidité, gloutonnerie, assoiffement, il avait avalés. Dans son imagination, les deux prunelles rouges dansaient une ronde lancinante. Au passant des chemins, il demandait s'il n'avait pas souvenir d'avoir perdu une grenade. 16 ans passèrent ainsi pour notre homme, remontant l'Oued jusqu'à sa source, marchant, marchant, le long des routes, au travers des villages, sans autre souci que la peine de son cœur à la recherche de pardon, sans autre vision du monde qui l'entourait que l'unique recherche de la grenade à qui manquaient ces deux grains. Un soir, il était harassé de fatigue, et sentant la nuit venir, il voulut demander l'hospitalité dans une maison. Il toqua la porte. Un homme au visage grave vint ouvrir. Sa femme, comme lui d'un certain âge, était accroupie auprès de son canoun, son petit fourneau de terre cuite, en train de préparer le souper. « La paix soit avec vous, » dit l'arrivant. « Et avec toi, hôte du Seigneur, » répondit la femme. Dans un coin obscur de la pièce, le voyageur entrevit une autre forme féminine, entièrement voilée, qui resta impassible lors de son entrée. L'atmosphère était solennelle. La femme mit le couvert, et notre voyageur, tant pour rompre le silence que pour soulager sa conscience et donner une expression à son repentir, se mit à demander à ses hôtes s'il n'avait pas le souvenir d'avoir, un jour, égaré une grenade. Le visage de la femme s'éclaira. « Certes, j'ai laissé tomber une grenade que j'ai beaucoup regrettée. C'est le jour même où j'ai mis au monde ma fille unique que voilà. » Et elle montra du doigt la forme voilée, inerte, assise dans le coin d'ombre de la chambre. L'étranger exultait. « Dieu soit loué, qu'il me pardonne et que vous me pardonniez aussi. Je vous rapporte cette grenade que j'ai trouvée dans un oued. » Il sortit de son capuchon la grenade recroquevillée, dont la peau, comme une vieille amulette de cuir tanné, avait encore une patine dorée. La voici. Mais il manque deux grains que j'ai commis la faute de manger et à cause desquels je cours depuis 16 ans. La mère, très émue, prit la grenade, l'ouvrit et se mit à grignoter ses grains. Ne se tenant plus de joie, l'hôte de Dieu s'exclama : Comment ferais-je pour vous remercier de me laver d'une tâche si accablante ? Puis-je demander la main de votre fille ? Le visage du père et de la mère s'embrumèrent. Hélas, notre fille est arrivée au monde comme un simple paquet de chair, sans bouche, sans yeux, sans oreilles. Et par la grâce du Très-Haut, elle a grandi au fur et à mesure des ans, en prenant la taille qu'elle aurait eue si elle avait été une véritable enfant. Mais ce n'est qu'un paquet de chair. Ce disant, la femme alla dévoiler le visage de l'être informe qui était recouvert de son haïk, H-A-I-T-R-E-M-A-K. Le haïk, c'est le voile que portent les femmes musulmanes. Machinalement, la mère continuait à grignoter sa grenade. Et voici que, ô miracle, le visage de la statue de chair s'anima peu à peu. Ses paupières s'entr'ouvrirent sur deux prunelles dorées comme des grains de grenade mûres. Sa bouche se dessina pour un sourire et un souffle de vie passa sur tout son corps. Et sous les yeux émerveillés du père et de la mère, la plus belle des créatures du monde s'avança noblement vers celui dont l'amour lui était prédestiné de toute éternité. Les sept filles du Hadji. Hadji, H-A-2-J-I, c'est le nom que l'on donne aux musulmans qui ont été en pèlerinage à la Mecque. La Mecque, L-A, plus loin, M-E-C-Q-U-E, est, comme tu le sais, la ville sainte des musulmans. Elle est située en Arabie Saoudite. Il était une fois un homme qui, sur la fin de ses jours, voulut consacrer sa vie de croyant en se rendant en pèlerinage à la Mecque. Mais son souci était de laisser seules chez lui ses 7 filles. Il leur fit maintes recommandations, dont la principale était de n'ouvrir la porte de la maison à personne. D'ailleurs, comme gardienne, il leur laissait une petite chienne. Cette petite chienne avait des dons très particuliers de clairvoyance et au surplus, elle parlait. Mais son langage n'était compréhensif que pour les gens au cœur très pur. Or, le Hadji venait à peine de prendre la route que les 7 filles entendirent toquer à la porte. « Qui est là ?» dit l'aînée des filles, curieuse de nature.
« C'est votre vieille tante qui vient porter des gâteaux maharek à ses chères nièces.
Les gâteaux maharek, M-A-A-R-E-K, ce sont des sortes de crêpes. À ce moment, la petite chienne aboya.
Aouh ! Aouh ! Sidi Awassani Benatou Matakoulihoun ! Aouh ! Aouh !
Les 6 filles aînées entendirent les aboiements. Mais seule la Benjamine comprit l'avertissement de la petite chienne.
Aouh ! Aouh ! Mon maître m'a recommandé que tu ne manges point ses filles. Aouh ! Aouh !
Et l'enfant en conclut que la vieille femme était une goulia G-H-O-U-L-I-A, c'est-à-dire une ogresse qui mange les enfants. Mais l'aînée, désobéissante, voulant faire preuve d'autorité et de liberté vis-à-vis de ses cadettes, décida d'aller ouvrir. La fausse vieille femme entra. Elle amadoua les filles avec ses petits gâteaux maharek, puis lorsque la nuit descendit à l'horizon, on alluma une petite lampe et l'ogresse demanda aux enfants de quelle manière elles avaient l'habitude de dormir. Les six filles aînées répondirent qu'elles se mettaient au lit et dormaient en fermant leurs yeux. La septième, par contre, prétendit qu'elle se couchait et dormait les yeux ouverts. Tout le monde s'étendit donc sur les petits matelas, et les six aînés ne tardèrent pas à s'assoupir dans un profond sommeil. À minuit, la goulia, l'ogresse, car c'était elle, vérifia que les aînés étaient bien endormis. Quant à la septième, elle devait certainement dormir, pensa l'ogresse, puisqu'elle avait les yeux ouverts. Et la goulia commença donc par dévorer l'aîné. Horrifiée, la Benjamine profita de ce qu'elle était occupée par cet horrible festin pour entrouvrir la porte et se sauver. Elle courut à perdre haleine à travers les champs, à travers les monts. De temps en temps, angoissée sur le sort de ses malheureuses sœurs aux prises avec l'ogresse, elle s'adressait à la lune pour avoir de leurs nouvelles. « Ya comera, c'est-à-dire « Ô lune, qu'a fait la goulia ?» Et la lune répondait « Elle a mangé ta sœur aînée. » Et la fillette redoublait sa course, franchissant les fossés, traversant les haies. « Ya comera, qu'a fait la goulia ?» Elle a mangé ta deuxième sœur. Haletante d'émotion et d'horreur, l'enfant courait toujours. « Ya comera, qu'a fait la goulia ?» Elle a mangé ta troisième sœur. La nuit avançait et la Benjamine poursuivait sa course éperdue, informée par la lune de la mort successive, de la quatrième, de la cinquième, puis de la sixième sœur. Alors l'enfant terrifié lança un dernier message. « Ya comera, « que fait la goulia ?»« Elle court après toi. » Ce fut le signal d'un redoublement d'efforts désespérés. Or, voici que, malgré tout son courage, l'enfant se vit contrainte de s'arrêter devant une large rivière dont les eaux étaient emportées par un courant tumultueux. C'est alors, au moment où la fillette se sentait acculée, qu'une voix très douce s'éleva dans les airs pour lui conseiller de dire « Ô rivière, sois de beurre et de miel !» L'enfant répéta la phrase et subitement, la rivière s'apaisa, ses eaux redevinrent calmes et limpides. Elle y plongea et passa aisément. L'ogresse qui était sur ses talons allait profiter de cette accalmie et s'élançait déjà pour la rattraper, quand la voix aérienne s'éleva de nouveau pour conseiller à l'enfant de dire « Ô rivière, sois un fleuve d'immondices !» Et les flots subitement devinrent noirs, gluants, empuantis. Cette fois, l'ogresse fut très sérieusement retardée. De l'autre côté de la rive, l'enfant courait toujours. Dans la pénombre du matin naissant, elle aperçut un trou d'accès à une grotte et s'y réfugia. C'était la grotte du serpent vert. Le serpent l'accueillit en protecteur et lui dit que dorénavant, la goulia aurait affaire à lui. La fillette pourrait donc rester en toute confiance dans son antre. Effectivement, quand la goulia qu'il avait vue de loin se réfugier dans ce trou arriva devant la grotte, le serpent vert se présenta. il se dressa sur sa queue arrière en couronne et souffla sur l'ogresse qui l'anéantit en poussière. Blottie dans l'antre, la fillette, enfin rassurée, était émerveillée d'entendre le doux murmure de l'éveil des plantes et des insectes réfugiés sous terre. Par une anfractuosité du rocher, comme une petite fenêtre ronde qui s'ouvrait sur la plaine, elle voyait même les premiers feux du jour naissant. Grande fut sa joie quand elle aperçut le fils du roi qui se promenait comme chaque jour à l'aube, accompagné de son mouton. Le mouton s'approcha de la lucarne du rocher. Il vit la fillette et fut jaloux. Il lui dit « Bah, bah, le serpent t'engraisse pour t'amener à point, et il tourne autour de toi et il te mangera. » La fillette en fut très bouleversée. Le serpent vit une ombre sur son visage et lui en demanda la cause. Très franchement, l'enfant lui avoua ce que le mouton lui avait dit. À quoi le serpent rétorqua. Quand le mouton repassera devant toi, tu lui répondras. Le serpent m'engraisse pour m'amener à point. C'est au fils du sultan que l'on me mariera. Tu seras sacrifié pour ma noce et je serai assise sur ta toison. Entendant ces mots, le mouton, désespéré, se roula dans la poussière. Ses blanches boucles de blaine en furent salies. Les serviteurs du roi le lavèrent, mais le fils du roi, inquiet, se demandait ce qui s'était passé. Alors, il suivit le mouton lorsqu'il repartit dans la nature. Il le vit s'approcher de la grotte, il y entra derrière lui. Là, il découvrit la jeune fille qui était d'une beauté incomparable. Il demanda sa main au serpent vert, son protecteur. On fit de magnifiques cérémonies pour fêter leur mariage. Mariage où, hélas, le petit mouton jaloux fut offert en sacrifice pour leur bonheur. Le 16e conte s'appelle « Les trois aveugles ». Il était une fois un aveugle qui, assis sur le bord de la route, la sébile à la main, récitait à longueur de journée sa complainte. « Ya el moumimine, ô croyants, n'oubliez pas vos frères, ô croyants, faites l'aumône dans le chemin de Dieu. » Et l'appel monotone, lancinant, se poursuivait jour après jour, mois après mois, année après année. Un homme passa. Il se nommait Mourad, M-O-U-R-A-D. Il venait de toucher sa paye et avait donc en poche la pièce d'or qui la représentait. À l'appel de l'aveugle, Mourad s'arrêta, fouilla dans sa veste pour voir s'il n'avait pas quelques menues piécettes. Inutile, il ne possédait que son écu d'or. Voulant malgré cela faire quelque chose pour l'infirme, il lui demanda « Avez-vous de la monnaie ?»« Bien sûr que j'en ai, » répondit l'autre. « Alors voici mon écu d'or, rendez-moi la monnaie. » L'aveugle mit l'écu dans sa poche et continua de sa voix chevrotante son refrain habituel « Ya el moumimnin !» Mourad, debout, attendit. Puis il attendit encore. Enfin, à bout de patience, il dit au mendiant « Ne gardez pas tout quand même. Prenez sur mon écu ce qui vous sera nécessaire et rendez-moi le reste. J'en ai besoin, c'est toute ma paye. » Le mendiant lui répondit « Que désirez-vous ? » « Je désire ma monnaie. » « La monnaie de quoi ? Vous ne m'avez rien donné. » Mourad était froissé. Il avait pourtant bien posé l'accord préalablement sur le retour de sa monnaie. Comme il ne pouvait même pas aller chercher son pain, il s'écarta un peu et se promit de veiller aux agissements de son solliciteur pour savoir si c'était un coquin ou un amnésique, un homme qui perd la mémoire instantanément. Quant au soir, l'aveugle se leva pour rentrer chez lui, Mourad le suivit. L'aveugle passa chez le boulanger et acheta sa miche de pain. Il alla ensuite au four du quartier et demanda sa tangia habituelle. La tangia, T-A-N-J-I-A, c'est une marmite de ragoût de légumes et de viande. L'infirme arriva devant sa porte et pour s'assurer que personne ne le suivait, il fit tournoyer violemment son bâton à 3 reprises autour de lui avant d'entrer. Mais Mourad avait pris ses précautions. Il évita le bâton en se baissant et se glissa derrière l'aveugle par la porte entrouverte. L'homme mit la marmite au milieu de la table et s'assit. Mourad s'assit en face de lui. L'aveugle prit une portion de ragoût. Mourad en fit autant en choisissant un bon morceau de viande. L'aveugle sentit qu'il y avait une présence dans sa maison. Il crut à un chat ou un chien contre lequel il grommela un juron. Mourad se tut. L'aveugle termina son repas, sortit sa besace, palpa son compte de la journée, et lorsqu'il soupesa la pièce d'or, il éclata d'un large rire. Ha 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 ha! Mourad serra les dents. Puis l'aveugle porta l'ensemble de la recette dans une grande jarre située dans l'angle de la pièce. Pendant le sommeil de son hôte, Mourad vida la jarre qui était pleine d'argent et fit un solide paquet de ce trésor. Quand, au matin, l'aveugle ouvrit la porte pour sortir, Mourad sortit derrière lui. Il s'était promis de le surveiller et se mit donc à le suivre. La journée se passa comme précédemment. Mourad, au soir, le raccompagna jusque devant la porte de sa maison et entendit un beau tapage d'imprécations quand l'homme trouva sa jarre vide. Au lendemain, l'aveugle, toujours suivi de Mourad, se rendit à sa place habituelle, car les infirmes de ce pays s'étaient partagé les divers quartiers de la localité et formaient une sorte de société secrète où chacun connaissait ses partenaires et avait son secteur défini. En passant devant un de ses confrères, l'aveugle, très nerveux, s'arrêta et raconta comment il avait été dévalisé. Mourad assistait au colloque en observateur attentif et silencieux. Le deuxième aveugle dit « Quelle imprudence d'avoir laissé ton argent à la maison! Ah, ce n'est pas à moi qu'on pourra jouer un tour pareil! Je porte tout mon argent dans ma djellaba, mon manteau de laine bien fermé. Et comme je ne la quitte jamais, ma djellaba, ni de jour, ni de nuit, je ne risque rien. » Aussitôt, le premier aveugle se mit à ruminer dans sa tête un plan pour essayer d'obliger son confrère à ôter sa djellaba. Les idées ne lui manquèrent point. Il alla chercher une jarre moyenne, versa au fond un peu de miel pour appâter les abeilles, et quand celles-ci furent assez nombreuses, il la porta au deuxième aveugle en lui disant « Je vais à la mosquée faire ma prière. J'ai là une jarre de miel et maintenant j'ai trop peur des voleurs pour l'abandonner à ma place. Veux-tu me la garder jusqu'à mon retour ?»« Volontiers, » dit l'autre. Le premier aveugle ne s'éloigna que de quelques pas dans l'attente des événements. Le deuxième aveugle prit la jarre, la cacha soigneusement sous sa djellaba pour ne pas être vu, et plongea son doigt tout au fond pour prendre une lichée de miel. Aussitôt, les abeilles déchaînées firent une tempête de leurs dards sous le manteau qui les emprisonnait. L'infirme, en un tournement, ôta sa djellaba, et avant que le premier aveugle ait eu le temps d'intervenir, Mourad s'emparait du vêtement et de la fortune du deuxième aveugle. Devant les cris et les vociférations des deux infirmes, un troisième compère surgit et entendit leurs histoires.
« Vous êtes fous !» s'écria-t-il. « Mettre de l'argent dans une djellaba, c'est s'exposer à toutes les agressions.
Moi, je suis tranquille. Je mets mon argent dans une tombe. Tous les soirs, je vais au cimetière. Après avoir prélevé ce qui m'est nécessaire pour le lendemain, je soulève une pierre qui dégage un trou par lequel je glisse mon argent pièce par pièce. J'entends le ding, ding, ding de mes pièces tombant au fond sur le tas de monnaie. Je referme le trou avec la pierre et je vis en paix. » Mourad, ainsi informé, suivit au soir le troisième aveugle dans le cimetière. Le troisième aveugle aborda une tombe masquée par un buisson, dégagea une pierre, et son trésor, en tombant, fit ding, 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 et le troisième aveugle s'en fut. Mais Mourad resta sur place, creusa davantage, retira tout le magot et partit chez lui. Le lendemain soir, l'aveugle n'entendit plus comme réponse à la monnaie qu'il lança que le son mat de la terre. Toc, toc, toc. Alors Mourad, suspendant son expérience, acheta avec les trois trésors réunis un beau terrain, construisit dessus une maison spacieuse où tout le reste de sa vie, il recueillit les infirmes, y compris nos trois aveugles, les malades, les voyageurs, les malheureux rejetés par la société. Il leur souhaitait la bienvenue, les lavait, les habillait, les nourrissait et donnait à faire à chacun un menu travail correspondant à ses capacités, de façon à assurer la vie de sa petite communauté dans laquelle chacun put ainsi vivre en paix et louer Dieu en commun. Pour Mourad, ce fut sa joie de devenir ainsi le serviteur des serviteurs de Dieu. La 17e histoire s'appelle « Un beau-frère malchanceux ». Deux frères vivaient avec leur famille dans la même oasis. L'un avait de nombreux enfants pour lesquels il travaillait de l'aube au coucher du soleil sans arriver pour autant à sortir sa maisonnée d'une vraie pauvreté. L'autre n'avait pas d'enfant. On lui connaissait de nombreuses propriétés. Il ne désirait donc pas se fatiguer à mettre en valeur de nouveaux jardins, puisqu'il vivait déjà avec sa femme dans une confortable aisance. C'est ainsi qu'un jour, il dit à son frère, le pauvre, « Voici un jardin un peu éloigné. Je n'aurai jamais le temps de le cultiver. Prends-le. Tu en feras bon usage pour toi et les tiens. » Tout heureux, Foudhala, F-O-U-D-H-A-L-A, le frère pauvre, prit possession du jardin. On était en automne. Tous les enfants furent employés à émonder les arbres, à défricher les broussailles, à retourner les terres et à ensemencer. De sorte qu'au printemps suivant, ce jardin, dont les terres s'étaient largement reposées, fut transformé en un paradis. Le cadi de la région, le cadi c'est le juge, passa par là au moment où Foudhala faisait ses premières récoltes. Il complimenta notre jardinier qui, obligeant, lui remplit un panier des primeurs de ses légumes et des plus beaux de ses fruits. Mais voici que quelques jours après, vint à passer la femme du frère riche qui n'avait pas été tenue au courant de la générosité de son mari. Elle chercha machinalement du regard sa propriété, ne la reconnut pas, se frotta les yeux, se demandant si elle était en état de veille ou de rêve, et finalement interpella son mari. « Mais n'était-ce pas là notre jardin ?»« Certes, mais je l'ai donné à Foudala, parce que nous n'en faisions rien. »«
Donné ? Mais c'est une fortune que nous avons perdue !»«
Pour nous, c'était une terre aride et sans valeur. »«
Mais regarde ce que tu avais et ce qu'il en a fait !» Tu dois absolument reprendre cette merveille.
Assez ennuyé, le frère riche proposa à Foudala de lui racheter le jardin. Celui-ci refusa, ayant honte d'en demander un grand prix, puisqu'il lui avait été donné, mais soucieux aussi de ne pas se voir reprocher par la famille tant d'heures de travail fournies par les siens pour la remise en l'état. L'aîné, écartelé entre sa femme et son frère, conclut. Il y a un arbitrage à faire. Allons chez le cadi, chez le juge. Il partit en calèche. Son cadet se mit en marche sous la pluie. Mais comme cette pluie devenait torrentielle, Foudala demanda abri à des nomades dont la tente était près de la piste. Ils l'accueillirent. La tente ne contenait évidemment pas d'autres meubles que des nattes. On pria l'hôte de s'asseoir. Celui-ci ne prit pas garde à un petit bébé posé à terre, à moitié caché par un foulard. Il s'assit donc dessus et malheureusement l'écrasa. Les nomades, au comble de l'excitation, s'en prirent à leur hôte, très ému, qui argua de son inadvertance. Ils conclurent « La vie d'un enfant est une chose inestimable, allons chez le cadi !» Foudala était désespéré de voir ainsi le mauvais sort s'acharner contre lui. La petite troupe formée par les nomades et lui-même avançait sous la pluie quand, à un moment, la piste passa sur une falaise qui surplombait de plusieurs mètres une excavation creusée par un oued, un fleuve. Foudala, dans un accès de découragement, voulut en finir avec la vie et il se jeta du haut du rocher. Or, ce jour-là, un homme était allé se baigner avec ses deux fils dans l'oued, et il avait failli s'asphyxier, se noyer en plongeant dans l'eau. Ses fils l'avaient ramené sur la berge au pied de la falaise, l'avaient ranimé, massé, puis l'avaient laissé étendu, afin qu'il reprît tout à fait ses sens. Foudala, en se jetant dans le vide, tomba en plein sur l'homme et le tua. Les jeunes gens, furieux, se jetèrent sur lui qui avait survécu, puisque son choc avait été amorti. Hébété, il entendait sans réagir le déversement d'injures dont il était l'objet, se demandant s'il était encore vivant, ou si était commencé pour lui l'interrogatoire après la mort des anges Monkir et Nakir, M-O-N-K-I-R et N-A-K-I-R. Devant ses yeux vides et son silence, les fils conclurent « Seule la justice nous départagera. Allons chez le cadi !» La troupe des plaignants, ainsi accrue de deux unités, continua à marcher le long d'une piste détrempée par la pluie. Ils rencontrèrent un homme, suant et soufflant, pour arriver à dégager son âne qui s'était embourbé. Le maître de l'âne appela à l'aide ses passants. Chacun d'eux s'affaira. Mais les affaires étaient mal conjuguées et Foudala, qui tirait l'âne par la queue alors que les autres le tiraient en sens inverse, fut bien mari quand il se trouva projeté en arrière, les quatre fers en l'air et la queue de l'âne entre les mains. Fou de colère, le maître de l'âne leva son bâton sur notre maladroit et dit « Mon âne a perdu toute valeur. Cela ne peut se régler que devant l'autorité. Allons chez le cadi !» Et il se joignit au cortège des plaignants. La série noire était complète. On s'approchait de la Mahakma, M-A-H-A-K-M-A, c'est-à-dire le tribunal, devant laquelle stationnait la calèche d'où avait déjà débarqué le frère riche. Le cadi était assez étonné de voir entrer une foule aussi nombreuse et insolite lorsqu'il reconnut dans l'accusé son obligeant jardinier. Sans mot dire, il donna successivement la parole à chacun des accusateurs. Le frère aîné parla en premier lieu. Lorsqu'il eut fini, le cadi lui dit « Je retiens votre offre de racheter ce jardin. Puisque le travail de votre frère en a évidemment changé la valeur, concluons, vous reprendrez le jardin et paierez 4 millions de frais à votre frère. » Le frère aîné refusa. Et le cadi prescrivit, puisqu'il succombait, qu'il verserait 500 dinars à la justice et 500 dinars à son frère, son adversaire. Puis il donna la parole au nomade. Le père raconta comment son bébé avait été tué par ce maladroit. Le cadi conclut : C'est bon, vous allez prêter votre femme à cet homme et je le condamne à ne pas vous la rendre sans vous avoir fait un autre enfant. L'homme se désista. Il paya donc 500 dinars à la justice et 500 dinars à Foudhala. Les deux fils du vieillard expliquèrent alors comment leur père avait été tué par ce prétendu candidat au suicide. Le cadi demanda « Est-il bien certain que la mort de votre père qui sortait d'une noyade soit due à ce choc ? Il y aura lieu à reconstitution du drame. Nous nous transporterons à la falaise. L'un de vous, messieurs, prendra la place du père et l'autre se jettera du haut de la falaise. » Les fils se dérobèrent et préférèrent payer 500 dinars à la justice et 500 dinars à Foudhala. Enfin, le maître de l'âne amena son bourricot près du banc du magistrat avec force démonstration de scandale pour montrer comment sa bête avait été amputée de son plus bel ornement. Et le cadi lui dit « Tu n'as qu'à prêter ton âne à cet homme et il ne te le rendra, je l'ordonne, que lorsque la queue lui sera repoussée. » Les uns après les autres, les plaignants se retirèrent assez déconfits. Foudhala resta seul dans le prétoire, confondu, debout devant le cadi qui cette fois l'apostropha. Eh bien, j'espère que c'est fini maintenant. Fin de la deuxième face de la troisième cassette. Deux grains de grenade. Conte du Maghreb. Traduit de l'arabe et établi par J. Selmili. Page 154. Tu trouveras sur la première face de la quatrième cassette le 18e conte de ce livre. Le coq du Mouloud. Il est suivi d'indications sur Mohammed et l'islam qui te permettront de mieux connaître et comprendre l'atmosphère religieuse de ces contes du Maghreb. La deuxième phase de la dernière cassette est consacrée à un conte des mille et une nuits, Ali Khojia, marchand de Bagdad. À bientôt.